La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, comme je l'ai annoncé la dernière fois, nous sommes toujours en Russie, en URSS, à la découverte de créatrices dans le monde du cinéma. La dernière émission, vous avez rencontré des pionnières du début du XXe siècle, lesquelles, pour la plupart, ont été emportées dans les turbulences de la Révolution russe. Je vous ai présenté Esther Choub, une réalisatrice de documentaires, et d'autres de ses congénères qui se sont partagés entre documentaires, films de propagande ou fiction. Alors, je nommerai encore ici Noutsa Gogoberidze, Margarita Barskaya, Tatiana Lukachevich, Nadezhda Kocheverova ou encore Tatiana Berezantseva. Et vous avez également écouté une composition d'Alexandra Pakhmutova. Bon, ce qui fait quand même pas mal de monde hein, pour constater que la gente féminine avait bien travaillé pour le cinéma. Alors revenons un peu sur Nadezhda Kocheverova, que j'ai évoquée un peu superficiellement lors de la dernière émission. Je vous avais dit qu'elle avait battu des records d'entrée au cinéma avec surtout ses réalisations de contes, d'histoires merveilleuses, puisque ce fut sa spécialité. Mais il faut avouer que les réalisatrices russes se sont souvent spécialisées dans les films pour enfants. Quant à Nadezhda Kocheverova, son film Cendrillon, qui date de 1947, serait le premier conte de fées du cinéma soviétique. Alors j'ai lu que dans son enfance, elle était déjà attirée par le spectacle et notamment le théâtre de marionnettes, et que dans la perspective de devenir actrice, elle a intégré une école d'art dramatique qui lui a permis de jouer dans des troupes de théâtre. Alors un premier mariage en 1923 avec un metteur en scène, Nikolai Akimov, apparemment lui permettra de s'ancrer davantage dans ce milieu. Puis à partir de 1925, elle suivra pour 3 ans, à l'âge de 23 ans, une formation au sein d'un collectif d'avant-garde soviétique, la Fabrique de l'acteur excentrique, hein, c'est le nom, qui interviendra aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Et c'est là qu'elle tournera davantage, elle se tournera davantage vers le cinéma, déjà en se familiarisant avec toutes les activités, métiers du cinéma, pour enfin trouver sa voie qui sera la réalisation. Alors au préalable, en 1929, elle sera assistante de réalisation pour se lancer à son tour et réaliser en 1937 son premier film intitulé « Une fois en automne », qui paraît-il a été perdu. Or, son second film, une fiction de 82 minutes, sorti en 1940, intitulé « Arinka », fera un tabac puisqu'il enregistrera 23 millions de téléspectateurs. Alors l'intrigue tourne autour d'une jeune fille nommée Arinka qui se trouve au milieu d'un conflit qui oppose son père à l'homme qui s'est amouraché d'elle. Par contre, son troisième film sur la guerre russo-finlandaise intitulé Galia lui apportera les reproches de la critique pour manque de contenu idéologique et sera même interdit de diffusion. Or, c'est là qu'elle se tournera vers la réalisation de films pour enfants, avec une première adaptation, dont elle écrira aussi le scénario d'un opéra de Tchaïkovski intitulé « Les souliers de la reine ». Ensuite, viendra le conte Cendrillon en 1947, suivi d'autres encore, jusqu'à Podane, qui lui fera gagner le premier prix du meilleur film au premier festival cinématographique de Kiev. Et elle décédera en 1989 à l'âge de 87 ans. Et en tout, elle aura réalisé une 20aine de films. Alors restons dans le domaine du conte. À défaut d'images, je vous propose d'écouter la musique du compositeur russe Sergueï Prokofiev qui a illustré le célèbre conte de Charles Perrault, Cendrillon. Thank you. Alors, j'ai encore une autre réalisatrice à vous présenter, laquelle se nomme Vera Stroeva, qui est née en 1903, au tout début du XXe siècle, et qui décédera en 1991 à l'âge de 87 ans. Alors, celle-ci s'engagera dans des études supérieures, en sortira diplômée pour entamer une carrière de comédienne, puis devenir dramaturge, puis metteur en scène de théâtre, et enfin co-scénariste et co-réalisatrice de plusieurs films avec son mari, nommé Grigory Rochal. Elle réalisera en solo une dizaine de films, dont deux films opéra, car paraît-il elle aimait beaucoup la musique. Bon, ceux-ci sont assez impressionnants, hein, d'après les images que j'ai vues. Et ce que j'ai lu donne raison à mes impressions premières, vis-à-vis de la somptuosité, la majesté des décors et des costumes, sans compter l'intensité générale qui se dégage des personnages, du nombre de participants qui chantent et se démènent devant nos yeux. Et le compositeur de ces opéras en est le russe Moussorgski. Alors, l'un de ces opéras, proposé sous forme de fiction cinématographique, est intitulé Boris Godounov. Alors, le film est en couleur, réalisé en 1954. Il dure 1h50 et sera projeté, paraît-il, même s'il ne participe pas, au Festival de Cannes en 1987. Alors, l'intrigue reste historique et se déroule en Russie. Il est question de conflits entre le tsar et ceux qui veulent s'emparer du pouvoir, avec un peuple au milieu qui souffre d'indigence, espère davantage de justice. Bon, les éternelles histoires qui se répètent, hélas, au cours du temps et partout. Alors, le personnage central se nomme Boris Godounov, censé être le tuteur et protecteur de Dimitri, le fils du tsar Ivan le Terrible. Et on suppose que Godounov a assassiné le fils, hein, l'enfant. Et partant de ce postulat, ben, le compositeur en a fait un être tourmenté, notamment par sa conscience. Et l'autre film, intitulé Kovanchina, réalisé en 1959, sera nominé aux Oscars de la meilleure musique de film en 1962. Alors, c'est aussi un film en couleur de 2h10 qui retrace une révolte russe à Moscou au XVIIe siècle. L'opéra fut inachevé par Moussorgski, qui décéda, si bien qu'il sera repris par un autre compositeur russe, bien connu également, nommé Nikolaï Rimsky-Korsakov. Mais dans l'ensemble, ben, cet opéra sera remanié. Et pour ce film, je crois que le compositeur Chostakovitch également y mettra sa patte, hein, si je puis dire. Alors, c'est un film qui est diffusé sur YouTube, si vous voulez vous rendre compte par vous-même de ce que je viens d'avancer. Alors, elle a réalisé d'autres films, en tout plus d'une quinzaine, vers lesquels, pour certains, son goût de la musique l'a porté, avec un documentaire de 35 minutes sur l'école centrale de musique du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, intitulé « Jeune musicien » de 1945, ou alors aussi ben, le grand concert réalisé au Théâtre Bolchoï avec danseurs, chanteurs, et qui date de 1951. Et à part cela, ben, elle a réalisé quelques films inspirés de romans, comme « Les Nuits Blanches » d'après Dostoïevski de 1934, un roman d'amour et de trahison, ou bien encore « Trouver de la joie » de 1939 d'après le roman de Panfiorov, ou encore « Nous, peuple russe » de 1965 d'après un roman du dramaturge Vsevolod Vishnevski. Alors, pour rester dans l'ambiance de l'opéra, eh bien, écoutons le prélude de la Kovanchina de Moussorgski.
Thank you.
Mais les réalisatrices russes ne cesseront pas de nous surprendre. Je n'ai pas encore fini de vous parler d'elles, car ici nous retrouvons Tatiana Lyosnova, qui elle est née en 1924 pour décéder dans les années 2000, en 2011 très exactement. Alors elle est née à Moscou, j'ai lu qu'elle était passionnée de littérature, qu'elle sera diplômée de la faculté de mise en scène de l'Institut National du Cinéma et qu'elle a commencé sa carrière comme assistante de Sergueï Gerasimov. En tout, elle aura réalisé 9 films en 30 ans. Alors pour son premier film intitulé « La mémoire du cœur », elle aurait également écrit le scénario et interprété le rôle principal. Alors elle se distinguera avec une série télévisée qui lui apportera un beau succès en 1973. Il s'agit de 17 moments de printemps. L'intrigue se déroule en 1945 et le héros est un espion soviétique qui infiltre les nazis. Or sa particularité, paraît-il, était de savoir rehausser les caractéristiques psychologiques des personnages en situation, comme par exemple dans le film « Le ciel leur est soumis ». Et elle décrit ainsi l'héroïsme de personnes hors du commun, ou dans « Trois peupliers de la rue Plyushchitka », qui présente le quotidien de gens simples, mais dont les qualités morales sont élevées. Alors l'histoire tourne autour d'une femme de la campagne qui arrive à Moscou et dont le regard évolue au fil des rencontres. Quant à son film intitulé « Carnaval » et réalisé en 1980, il remporte un franc succès en URSS. Il s'agit d'une comédie romantique, l'histoire d'une jeune fille de province débarquée à la ville et qui fait l'apprentissage de la vie. Alors j'ai lu que ce film montrait en outre les inégalités socio-culturelles, le racisme, la pauvreté, le tout ponctué de scènes tragicomiques en faisant vivre à l'héroïne toutes sortes de situations insolites. Alors nous terminerons notre voyage en Russie avec Kira Muratova, qui elle est née en 1934 et serait décédée récemment en 2018. Il paraît qu'elle était le dernier auteur du cinéma indépendant soviétique, dans le sens qu'elle devait essayer de sortir des systèmes étatiques en place. Alors elle est fille de révolutionnaires roumains, et d'ailleurs elle est née en Roumanie. Elle se fera naturaliser par la suite, poursuivra ses études à Moscou pour sortir diplômée de l'Institut fédéral d'État du cinéma. Et commencera à travailler dans un studio de cinéma en 1962. Alors là, elle réalisera un court-métrage intitulé « Au bord du ravin abrupt », un film qui relate l'histoire d'un chasseur qui, pour protéger ses troupeaux, part en chasse d'un loup. Bon, c'est un film qui traite du rapport homme-animal. Quant à son premier grand film, réalisé en 1967, il s'intitule « Brève rencontre », et dans celui-ci, elle joue un rôle. Or, c'est un film critique sur la bureaucratie soviétique, si bien qu'elle rencontre, c'est inévitable, la censure. Même sanction pour son second film, d'une durée de 97 minutes, intitulé « Longs adieux » de 1971, qui traite de la relation entre une mère et son fils adolescent. Film qui restera censuré jusqu'en 1987. Alors, parmi ces autres films, je citerai « En découvrant le vaste monde » de 1978, « Le syndrome asthénique » sorti en 1989, un film sombre, ce qui dérange encore le pouvoir en place, qui lui restreindra sa diffusion, car la représentation de personnages dépressifs ne correspondait pas, c'est ce que j'ai lu, à l'idée que devait se faire le public du citoyen soviétique. Or, parmi ces autres films, quelques titres, comme « Le milicien amoureux » de 1992, « Trois histoires » de 1997 et « L'accordeur » de 2004. Or, j'ai lu, et en général, qu'elle était intéressée par le comportement de gens ordinaires, lorsqu'ils étaient confrontés à des situations extraordinaires et comment leur vraie nature pouvait se dévoiler. Alors, pour vraiment vous donner une idée plus précise de ce qui l'intéressait de filmer, je vais vous citer ce qu'elle aurait dit lors d'une interview en 1987 en évoquant son premier court-métrage au bord du ravin abrupt. Alors, je cite « Le film donne lieu à une étude psychologique des rapports du chasseur et de sa proie. En un mot, le héros est une espèce de type bizarre, ce qu'on appelle en russe un tchoudak. Alors pour moi, ça a été le début de mon intérêt pour les gens bizarres, un peu marginaux, des caractères entiers et différents. » Alors elle réalisera en tout une vingtaine de films jusqu'en 2012, c'est-à-dire qu'elle tournera presque jusqu'à la fin de sa vie. Et elle recevra aussi de belles récompenses, comme par exemple l'Ours d'argent au Festival international du film de Berlin en 1990. Et son dernier film, intitulé « L'éternel retour », sera projeté lors du Festival international du film de Rome, et c'est là qu'elle aurait annoncé la fin de sa carrière. Alors ce dernier film sera aussi récompensé puisqu'elle recevra le NICA du meilleur film de la communauté des États indépendants, qui est la principale récompense nationale de cinéma en Russie. Et de plus, ces films, L'on à Dieu et Le syndrome asthénique, feraient partie des 100 plus grands films réalisés par des femmes, selon le sondage de BBC Culture. Et bien voilà, nous arrivons au bout de notre voyage en terre russe, en même temps que s'achève l'émission. Mais c'est pour mieux nous retrouver la prochaine fois avec d'autres créatrices au cinéma dans d'autres pays. Bon, nous verrons lequel. En tout cas, j'espère que vous avez fait un agréable et instructif voyage. Et dans la perspective de renouveler l'expérience, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de La Voix des Arts. Et merci de votre écoute.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.